Combien sont-ils aujourd'hui? 6 millions, 7 millions, 8 millions peut-être, 8 millions de personnes, c'est-à-dire un 12e de la population totale du pays que nous allons visiter, un 12e qui est indien. Oui, il y a 54 ethnies qui existent et qui sont réparties comme une mosaïque complexe avec des petites communautés qui sont dispersées sur ce vaste territoire. Nous y sommes, nous sommes au Mexique et on trouve parfois des hameaux. Des hameaux de ces villages indiens qui sont tout près des grands axes routiers, bien sûr, mais c'est en s'enfonçant dans des chemins de terre battue, là où s'arrête véritablement la vie du blanc, du touriste, du ladino. C'est là que commence le vrai royaume des Indiens, en principe. C'est là aussi, sur un terrain aride, au sommet de ces massifs montagneux, où il y a un côté abrupt, où il y a des vallées étroites, c'est là où il y a des pluies violentes l'été, où on arrache à cette terre une mince couche fertile, c'est là où s'achèvent les bonnes terres cultivables, c'est là où vivent véritablement les Indiens. On ne peut pas évoquer le Mexique des Indiens sans avoir brièvement décrit leur passé. Or, il y a un passé précolombien, bien sûr. Il y a surtout des siècles de domination. Une domination qui est d'abord espagnole et qui ensuite sera tout simplement mexicaine à partir de l'indépendance. Après la prise de Mexico Tenochtitlan, Cortés va ouvrir une voie. Une voie qui est tout simplement celle de la conquête militaire, de la conquête spirituelle aussi du continent américain. Et je dirais que c'est le moment où commence cette période de domination qui va durer 3 siècles et qui ne prendra fin au Mexique que le 24 août. Un 24 août 1821, bien sûr, c'est la date de l'indépendance de ce pays qu'est le Mexique. Il a fallu d'abord s'assurer le contrôle, là je parle des colons, je parle des Espagnols, le contrôle non seulement des villes de Mexico, Tenochtitlan, de toute cette vallée incroyable qu'on appelait la vallée de l'Anahuac, qui est très riche, qui se trouve autour de la grande capitale aztèque, mais les Espagnols vont entreprendre petit à petit ce que j'appellerais l'exploration tout d'abord, et ensuite la conquête de toutes les autres régions du Mexique. Alors bien sûr, Cortés est arrivé en 1519, Mexico Tenochtitlan est tombé le 13 août 1521, Cuauhtémoc, qui est le dernier survivant de cette grande dynastie aztèque, va mourir dans les jungles du Honduras, je dirais presque de la main de Cortés, puisqu'il a été pendu de façon assez misérable lors d'une expédition en direction du Honduras. Et ces premières conquêtes vers les autres régions du Mexique, je dirais qu'elles ont été assez faciles. Quand je parle de facilité, c'est parce que les Européens vont imposer petit à petit leur hégémonie à tous ces peuples qui étaient d'abord des sédentaires. Imaginez le sud du Mexique, tout ce qui est autour, disons, de Mexico, Tenochtitlan, tout ce qui est au sud jusqu'au Guatemala, il n'y a que des sédentaires, il n'y a que des gens qui s'occupent d'agriculture. Donc ces peuples agricoles étaient en fait tous pratiquement sous la domination des derniers présents, je parle bien sûr des Aztèques une fois de plus. Alors ce qui est impressionnant, c'est la fin tragique de leur capitale. Tous les Indiens ont été terrorisés par la fin de Mexico Tenochtitlan et ils vont offrir véritablement leur soumission à la couronne d'Espagne sans discuter, sans même se poser de questions. Ils vont même, je dirais, se soumettre en offrant leur propre puissance, c'est-à-dire que ils vont se permettre d'accompagner les Espagnols et ils vont lutter contre les tribus belliqueuses qui sont au sud. Ils vont lutter avec obstination contre leurs propres amis, souvent, ou en tout cas leurs anciens gouvernants, je pense aux Aztèques. Et c'est seulement lorsque on ira vers le nord, du côté des Indiens, qui eux sont beaucoup plus nomades, qu'il y aura de véritables problèmes, des problèmes qui sont assez normaux, puisque un nomade par essence veut défendre sa liberté, et qu'au fond il faudra vraiment à la fois la force des Espagnols, mais aussi la force des Indiens sédentaires pour obtenir des résultats dans le nord. Alors la première partie du XVIe siècle, on va en parler un petit peu parce que si je parle des armées espagnoles, elles sont très petites, il y en a plusieurs qui vont partir de Mexico, mais c'est l'aide de ces milliers d'Indiens qui vont se rallier, qui vont permettre d'envahir ces immenses territoires. Alors je donne juste quelques dates, parce que entre 1523 et 1524, on le sait, on va partir d'un seul coup vers le sud, et c'est Pedro de Alvarado, qui était le capitaine de Cortés, qui va réussir à soumettre un pays qu'on connaît bien aujourd'hui sous le nom de Guatemala. Si vous remontez un peu dans l'histoire et qu'on continue ainsi avec les années qui suivent la conquête, en 1529, il y a quelqu'un de très important qui s'appelle Nuño Beltrán de Guzmán. Alors là, c'est une conquête brutale, je dirais même sanglante, une sorte de campagne incroyable, militaire bien sûr, à travers des territoires qu'on connaît au Mexique comme étant le Michoacán, l'état du Jalisco, le Nayarit, le Sinaloa. Si vous regardez la carte, eh bien, ça monte carrément. D'abord, on va sur la gauche de Mexico, on va jusque sur la côte pacifique et on remonte jusqu'au désert du Sonora, c'est-à-dire pratiquement à la frontière des États-Unis actuelle. Alors ça, c'est quelque chose de fulgurant. Et puis, il y a bien sûr Cortés, que je citais tout à l'heure, qui en 1524 va effectuer cette expédition dans le sud, dans le Honduras, au cours de laquelle il va faire pendre Cuauhtémoc, cet héroïque défenseur, le dernier qui a su défendre Mexico-Tenochtitlan et qui a perdu le pouvoir le 13 août 1521, on l'évoquait. Et en 1535, ce même Hernán Cortés va explorer les côtes du Pacifique jusqu'à la Basse-Californie. Alors là, carrément, le long des côtes, vous voyez où se trouve la Basse-Californie, c'est un peu en dessous de la Californie actuelle, vous descendez depuis San Diego, vous allez jusqu'à La Paz. Il y a d'ailleurs encore, entre la Basse-Californie et le Mexique, un endroit qu'on appelle la mer de Cortés. J'avance encore dans l'histoire. En 1528, vous avez un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Panfilio de Narváez. Alors lui, il débarque carrément en Floride, mais son expédition va finir de façon absolument tragique. Il y aura pratiquement aucun survivant. Et je dirais que ceux qui sont revenus ont simplement décrit la façon tragique de traverser ces territoires indiens. On ne pense pas forcément que la Floride était si habitée. Et il y en a un autre qui est très intéressant aussi. Là, on pourrait carrément faire un film sur Alvar Núñez Cabeza de Vaca, tête de vache, avouez que c'est un nom extraordinaire. Eh bien, lui, il est revenu à pied au Mexique et depuis les États-Unis en signalant l'existence de terres absolument riches. C'est lui qui a donc été le seul survivant de cette immense expédition. Et il a parlé de toutes ces régions du Nord qu'il a traversé. C'est une véritable épopée. Il a traversé tous les grands états les plus désertiques des États-Unis. Et il y a d'autres personnages, un voyage d'exploration, je dirais que Fray Marcos de Niza, il a des récits assez étonnants. C'est lui qui va répandre cette étrange, enfin c'est pratiquement une suite de légendes qui nous cite les sept cités de Cibola. Les cités de Cibola, on les recherchait justement dans ces territoires nomades du nord, chez les Indiens Pueblos, on les a cherchés un peu dans tout le sud des États-Unis, où on était sûr d'obtenir de l'or dans ces cités fabuleuses. Et puis, il y a une expédition encore, celle de Vázquez Coronado, et qui vont chercher, alors naturellement, le mythe de l'Eldorado, non pas dans le sud, où on le cherche d'habitude, mais au contraire, dans la région de l'Arizona. Vous voyez que chaque fois qu'on touche les régions nomades, on tourne à la légende, on imagine des peuples, on imagine des forces qui s'évanouissent dans la nature, on imagine des villes qui ne sont souvent que des villages de toile. On a tous rêvé à un Apache ou à un Indien. Alors, lorsque vous parlez de la Californie ou du Texas, en pensant à l'Eldorado, ça paraît curieux, ça l'est aujourd'hui, c'est vrai. Les Espagnols vont apprendre que ces vastes territoires du Nord sont très peuplés, mais que la colonisation sera difficile, d'autant plus qu'elle sera beaucoup plus tardive que celle du Mexique. Thank you. Si nous partons maintenant vers le sud, eh bien, il y a une date importante, c'est 1533. 1533, c'est la destruction de cet empire, c'est ainsi qu'on l'a appelé. Là, vous êtes naturellement chez les Incas, vous êtes au Pérou, et je dirais que c'est une richesse, en tout cas un empire comparable à celui des Aztèques. Bien sûr, on évoquera Francisco Pizarro, on pense à ce débarquement sur les côtes du Pacifique, à une époque qui correspondait, lorsqu'on parle de tradition ou de mythe, en tout cas cette tradition sacrée des Incas, voulait absolument voir le retour de leur dieu civilisateur, de Viracocha, et qui s'est éloigné sur la mer d'Occident et qui avait promis à ses Indiens de revenir. C'est assez curieux de voir qu'en fait, cette prophétie qui va aider Francisco Pizarro est pratiquement la même que celle qui a été annoncée au Mexique avec l'idée du serpent à plumes précieuses, Quetzalcoatl, qui avait, lui, favorisé involontairement Cortés. Alors, si je parle maintenant de recherche, de route, eh bien, il y a celle de l'Asie, bien sûr, qu'on va tenter. On va découvrir petit à petit les Philippines, et ce sera une escale importante pour le commerce avec la Nouvelle-Espagne. La dernière décennie du XVIe siècle, je dirais qu'elle marque la fin de cette grande époque des conquêtes. Si on reprend l'intérêt du Nouveau Monde, cet intérêt qu'il avait suscité en Europe, à cet immense courant, je dirais, d'intérêt, eh bien, de curiosité aussi, essayez de voir un peu l'histoire. Colomb est mort en 1506 et il croyait avoir atteint des rivages absolument fabuleux de l'Asie qu'on évoquait avec les Philippines. Or, il est arrivé en Amérique. Et ces nouvelles terres, il va tout simplement les nommer, vous le savez, les Indes occidentales. Et leurs habitants, bien sûr, vont s'appeler les Indiens, un nom qui va leur rester finalement. Et lorsque, ensuite, de nombreux autres voyages d'exploration par les Européens vont permettre de s'apercevoir qu'on avait découvert en fait un nouveau continent, ben là, c'est vraiment le début de ce que j'appellerais les problèmes philosophiques. Il y a la philosophie, mais il y a aussi un côté théologique qui va prendre de l'importance. Tout cela va être soulevé pour expliquer la présence de ces êtres humains dans des contrées, dans des endroits lointains qui paraissent totalement aberrants. Alors, essayez de vous remettre en 1500. On va d'abord interroger la Bible, bien sûr. On va interroger tout ce qu'on connaît comme auteur de l'Antiquité, soit du côté grec, soit du côté romain. Et on va supposer des formules absolument fantaisistes, je dirais fantastiques en tout cas. On se demandait par exemple si les Indiens étaient des descendants des 10 tribus perdues d'Israël, parce qu'on le lit dans la Bible bien sûr. On s'est imaginé aussi que, bon, pourquoi pas, ils auraient pu être des rescapés de l'Atlantide. Là, c'est quand on lisait les textes grecs. Ou alors, tout simplement, des fils de navigateurs. On pensait aux Carthaginois, on pensait peut-être à cette flotte que Alexandre le Grand avait perdue. Donc on recherche dans l'Antiquité, dans le passé, l'explication de ce continent qui n'a rien à faire dans la logique à la fois de la Bible et des textes anciens. Et puis il y a surtout cette question, c'est de savoir si ces gens sont, comment dire cela, d'abord ils sont barbares, ils sont idolâtres, bien sûr, de savoir s'ils ont tout simplement une raison et si surtout ils sont doués d'une âme. Alors ça paraît impressionnant, mais imaginez-vous qu'à partir de 1500, en tout cas 1492, si on reprend la découverte de l'Amérique, il faudra attendre 1537, c'est-à-dire pratiquement une cinquantaine d'années, pour qu'un pape, et là je pense à Paul III, déclare finalement, par une bulle extrêmement célèbre, vous savez, ces bulles pontificales, que les Indiens étaient de vrais hommes. Jusque-là, on n'était pas sûr que les Indiens soient des hommes et qu'ils étaient, d'après le pape, dignes de respect et peut-être même aptes à recevoir la foi chrétienne. En 1537, c'est-à-dire que tout le continent était déjà pratiquement aux mains espagnoles quand tout à coup, à Rome, on se posait encore la question de savoir si ces gens avaient une âme ou pas. Alors, la richesse, le profit, ben, je crois que c'est la première chose qui a aidé au voyage de Colomb. Et je dirais qu'il faut surtout comprendre que dès le départ, on va réprimer violemment tous les mouvements de révolte des indigènes. Et là, bien sûr qu'on pense à la fois à l'actualité, parce que n'importe où sur le continent américain, ceci continue 400 ans après. Ces révoltes qui, de temps à autre, explosent à gauche ou à droite, comme elles l'ont fait au Mexique, au Guatemala, au Pérou ou ailleurs, eh bien déjà, à l'époque de Colomb, elles étaient réprimées de façon incroyable. Et ça ouvre véritablement, je dirais, une sorte de... une période, une ère d'exploitation systématique de toutes ces populations qui sont bien sûr malheureuses. Et depuis la découverte de Colomb, je dirais que la couronne d'Espagne s'était assurée la bénédiction d'un pape. Là, je pense bien sûr à Alexandre VI qui avait confié à l'Espagne cette mission d'évangéliser les peuples du Nouveau Monde. Mais derrière le paravent, ben c'est bien ça, derrière le paravent chrétien, derrière le paravent de l'évangélisation, il y a d'abord des intérêts politiques, il y a des intérêts individuels surtout qui sont bien concrets. Et si quelques capitaines ou des soldats vont se sentir investis par la mission, par le côté providentiel, par cette mission supérieure, s'il y avait, il faut le dire aussi, un esprit que j'attribuerais pratiquement à, oui, on pourrait dire un esprit de croisade, il y a eu des conquérants comme cela, mais le but recherché, je crois que c'était d'abord le profit, ça vous le savez, c'était naturellement l'or, et puis la promotion sociale aussi, c'était des gens très simples qui tout à coup devenaient presque des princes, qui recherchaient en tout cas des honneurs. Ces rêves qui étaient offerts comme cela, de façon extrêmement facile, à une poignée d'hommes, à des marins, à des simples aventuriers, qui se lançaient sous la conduite d'un hidalgo, qui pouvait être vrai, qui pouvait être faux, ça n'avait aucune importance. Cette épopée, eh bien, elle allait tout simplement offrir à Charles Quint, là je pense au successeur, bien sûr, des grands rois catholiques, un empire où le soleil ne se couche jamais. Et cette civilisation, cette culture de tous les peuples de l'Amérique va susciter des étonnements, il faut le dire. Je dirais même de l'admiration de la part des Espagnols, mais le plus souvent, je dirais aussi que c'est la répulsion. La répulsion à cause des pratiques sanguinaires, à cause de ces rituels un peu barbares. Et on disait bon qu'il y avait un aspect de civilisation intéressant, que ces conquistadors avaient noté quelque intérêt, disons, à ce qu'ils voyaient, mais c'était d'abord le mépris. Je crois qu'il y avait un mépris souverain pour toutes les réalisations de ces peuples qui maintenant étaient vaincus. L'Europe, vous savez qu'elle s'intéressait d'abord aux épices, ou peut-être aussi aux plantes médicinales, on les oublie un peu. Il y a toutes sortes de produits, mais ce qui les a relativement peu frappé, c'est cette importance culturelle, c'est ce fait que les terres découvertes étaient surtout des pays qui avaient produit des choses extraordinaires, mais on ne voyait que l'or, on ne voyait que la matière et non pas l'art. Alors, ce sont des richesses très faciles, il y a eu quelques personnes cultivées en Europe qui ont admiré leur talent artistique. Ben, j'ai envie de citer quelqu'un que je cite très volontiers, c'est Albert Dürer. Albert Dürer, ça n'est pas n'importe qui, c'est quand même le grand renaissant du moment. Eh bien, lui, en 1520, il a vu ces objets d'or, ces objets d'argent du trésor de Moctezuma que Cortés avait envoyé à Charles Quint. Et je vais vous lire ce qu'il a écrit. « De toute ma vie, je n'ai rien vu qui eût réjoui mon cœur comme ces choses, car j'y ai vu des objets d'art étonnants et j'ai été frappé par le subtil génie des hommes de ces contrées lointaines. » Comme quoi, un Indien avait quand même quelque chose dans ses mains, dans son cerveau, une culture tout simplement balayée en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. on peut s'imaginer parfois ces quelques milliers d'hommes qui avaient offert. Offert comme on ouvre simplement la main à cette couronne d'Espagne, le premier empire colonial moderne, sans que cette couronne ait eu à participer, je dirais, au risque ni au financement des expéditions. Parce que la conquête, elle était essentiellement, elle était d'abord une entreprise privée qui était organisée par quelques riches fonctionnaires, par des marchands, qui vont assurer l'achat des navires, les vivres, tout ce dont on avait besoin pour l'échange, enfin ces menus objets qu'on donnait aux Indiens. La couronne, elle retenait simplement le cinquième du butin, ce qu'on appelle le quin royal, el quinto del rey, et naturellement elle donnait quelques attributions, des licences, des privilèges, mais le reste était partagé entre les financiers, les capitaines et les autres participants en fonction de leur apport, un apport véritable dans une entreprise. C'était la première entreprise et la première grande colonie au monde. Nous sommes dans cette deuxième moitié du XVIe siècle. Vous êtes espagnol, vous désirez organiser les territoires que vous venez de conquérir. Alors au début, vous êtes un conquistador et vous croyez bon, vous pensez que c'est bien d'octroyer aux chefs indiens, à ces grands chefs, des privilèges. Des privilèges que vous allez, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait les rendre analogues à ceux que nous avons en pillant petit à petit, en prenant ces terres? On va jouer carte sur table, moitié-moitié. Mais petit à petit, on va se substituer à cette classe dirigeante qu'on avait d'abord maintenue en place, simplement pour mieux contrôler toutes ces immenses communautés, ces immenses territoires ruraux. Alors, les commerçants. Les commerçants qui étaient ces fameux pochtecas chez les Aztèques, par exemple, qui vivaient dans les centres urbains, ils vont perdre complètement leur monopole. Si vous pensez aux anciens prêtres, eh bien ces prêtres indiens vont être remplacés petit à petit par les missionnaires qui arrivent maintenant en Nouvelle-Espagne, en tout cas, ou dans l'ensemble de l'Amérique. On va imposer aux Indiens une nouvelle hiérarchie. Alors bien sûr, c'est une hiérarchie qui est à la fois politique, mais aussi tout ce côté religieux de l'espagnol. Et on va adopter tout cela tout en conservant, je dirais, quand même les formes de gouvernement, les modes en tout cas de gouvernement précolombien. Et je dirais que ces nouveaux seigneurs vont se montrer en fait beaucoup plus durs, en tout cas plus intransigeants que les Aztèques, à la fois dans le domaine religieux, mais aussi dans d'autres secteurs, parce qu'on va introduire de nouvelles formes de servitude, de nouvelles formes d'exploitation, avec des techniques qui en Europe sont beaucoup plus perfectionnées. Et on va d'abord prélever des tribus, alors des tribus qui sont beaucoup plus élevées. Les Indiens vont être, ça c'est important, de penser que les Indiens vont être très rapidement exclus du sacerdoce et de toute charge publique. Vous voyez un peu le résultat? Essayez de penser sans arrêt au présent, à ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays, au Guatemala, au Mexique, au Pérou, en Bolivie, en Colombie. Toutes ces charges ayant disparu, l'Indien n'a même plus rien à dire par rapport à la religion, il n'a plus rien à dire quant aux affaires publiques du pays ou de l'État. Alors, je prends un autre exemple. Il était interdit à un Indien de posséder un cheval et il n'avait pas la possibilité d'avoir une arme à feu. Tout cela était interdit. Vous allez me dire, alors les cow-boys et les Indiens. Attention, quand vous pensez aux cow-boys et aux Indiens, vous faites une erreur parce que là, ce sont des nomades et que de manière sauvage, ils ont pris les chevaux aux Espagnols. Mais là, en l'occurrence, pas d'armes, pas de chevaux et puis surtout des prohibitions qui arrêtaient toutes les coutumes un peu suspectes, tout ce qui était un peu païen. Je pense par exemple au bain de vapeur. Tiens, avant, on a interdit le bain de vapeur, le témascal, parce qu'on pensait que c'était quelque chose de païens. On a interdit autre chose qui me paraît curieux, c'est la culture de l'amarante. On pensait que c'était une plante qui était associée à des rituels un peu archaïques. Enfin bon, ce sont des petits exemples, mais vous allez voir que maintenant on va implanter un système, et c'est important de le savoir aussi, qu'on appelle l'encomienda. L'encomienda, on l'avait inventé, on l'avait institué en fait aux Antilles déjà, aux alentours de 1503 pour être très précis. Et ça a été la base de la colonisation du Mexique. Et en l'occurrence, les Espagnols vont recevoir en échange de leurs services Comment vous expliquer cela de façon très simple? Ben oui, ils vont recevoir en fait un lot, une sorte de, une quantité X d'Indiens qui vont travailler dans les champs qui sont offerts, qui sont confiés à l'encomendero, à celui qui va commander tout cela. Alors, on va devoir les instruire dans la religion, dans la foi catholique, et les encomiendas étaient d'importance très variable parce qu'il peut y avoir quelques villages ou quelques étendues de terre, mais alors qu'il y avait des populations qui pouvaient être nombreuses avec plusieurs agglomérations, ou alors simplement quelques petits hameaux ensemble. C'est ça l'encomienda. Mais c'est surtout cette idée de devoir fermer un monde sur lui-même qui appartient à un seul homme, à un seul soldat à l'époque qui recevait cela en cadeau. Alors l'exploitation, elle est brutale, il y a eu des abus, il y a eu des atrocités. D'en parler parce que il y a eu des cris d'alarme qui ont été vraiment entendus un peu partout au moment de la conquête, mais c'est surtout cette impressionnante réduction, diminution de la population indienne. La couronne qui s'était d'abord assurée le contrôle direct de ces colonies en écartant peu à peu des postes de commandement les capitaines les plus fougueux, avait créé en 1527 une audience, l'Audiencia de Mexico, en avait envoyé le premier vice-roi en 1535. Elle avait promulgué des lois en faveur des Indiens, mais celles-ci vont être rapidement contournées, je dirais même ignorées par les coloniaux espagnols lorsqu'elles étaient tout simplement préjudiciables. C'est important de voir. La couronne lance des lois et à l'autre bout, on les refuse, on les esquive. L'Indien sera exactement dans la même situation qu'au jour même de la première conquête. Vous êtes en 1524, vous êtes à Veracruz, une ville qui vient de naître, tout en bois, un port, de grandes vagues sur des rochers, et vous êtes en compagnie d'un groupe de 12 moines, 12 moines franciscains. Il y avait dans ce groupe le plus célèbre des chroniqueurs, à mon avis, il s'appelait Toribio de Benavente, moi je l'appelle Motolinha. Pourquoi ? Parce que Motolinha, ça veut dire le pauvre. Le pauvre lorsque vous parlez aztèque, lorsque vous parlez nahua. Il s'était baptisé en langue nahua. Et les Indiens vont être frappés par... Regardez-les, ils sont totalement dénués, ils sont simples. Ce sont 12 apôtres qui refusent toute aide et qui vont se rendre à pied de Veracruz à Mexico, où Cortés va les accueillir avec les plus grands témoignages de respect. Il y a de drôles de gens, il y a de drôles d'histoires, de drôles de moments dans ce déclic entre la conquête et la colonie. Thank you. Vous êtes le pauvre, vous êtes Motolinia, vous avancez vers Mexico à pied. Vous venez de voir Cortés, il y a ce respect. Il faut comprendre que ces gens qui sont pieds nus, qui portent la bure des franciscains, qui croient encore à ces frères des pauvres, qui sont les premiers à oser prendre ce continent en main pour une évangélisation qui a quelque chose de la première idée, du premier esprit, de la base même de la chrétienté, une idée évangélique qui est très proche de Jésus. N'oubliez pas, Saint François sera le seul à poser le pied sur le continent américain. Il vient d'Italie, mais il a cette sobriété, cette simplicité qui fait qu'on peut être frère des pauvres et vouloir s'appeler Motolinia. Pas de hasard, ils étaient 12, c'était bien des apôtres, et ils sont arrivés en 1524. 4 ans plus tard, il y a 19 autres franciscains, parmi lesquels quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand on fait le chemin de Saint-Jacques et qu'on s'arrête à Sahagún, on est obligé de penser à Bernardino de Sahagún. Il venait d'Espagne, c'était un franciscain, et il va passer une vie très longue, il va vivre longtemps, c'est vrai, il va rédiger son histoire des choses de la Nouvelle-Espagne. L'histoire du Mexique, comme personne d'autre ne la racontera, c'est peut-être le plus admirable, le plus complet des témoignages sur les rites, sur les croyances de cet ancien Mexique. Et je parlais de la couronne d'Espagne tout à l'heure, elle va confier l'évangélisation des Indiens d'abord, naturellement, aux ordres mendiants. Vous comprenez pourquoi ? Attention, la couronne d'Espagne, aucun empereur, aucun roi d'Espagne n'a mis le pied jusqu'à l'histoire contemporaine en Amérique. C'était des gens qui avaient idéalisé ce continent et qui en fait avaient demandé aux franciscains, ensuite aux dominicains, c'est un ordre espagnol, aux augustins, de commencer l'évangélisation. Alors ces premiers apôtres du catholicisme, ils ont une foi extraordinaire. Ils ont aussi, je dirais, des idéaux qui ont une noblesse qui nous étonne quand on lit ce qu'ils ont été capables de faire. Ils vont lutter contre ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'avidité, les abus des colons, les abus des soldats. Il faut jouer aussi à cette balance pour montrer que l'espagnol n'est pas tout noir. Il n'y a pas que du rose, bien sûr, mais enfin, ces gens-là rééquilibrent un peu tout cela. À cette époque, il y avait des courants d'idées qui étaient fantastiques en Europe. En Espagne, on parlait des doctrines d'Erasme, on parlait de Thomas More avec ses idéaux fantastiques. Il y avait des adeptes, bien sûr, et c'est ce désir d'un retour aux sources véritablement primitives du christianisme que les missionnaires vont faire passer en Amérique. Ils vont fonder les premières églises, ces premiers couvents de Nouvelle-Espagne. Entrons pour quelques secondes dans une église de cette première époque. Une nef d'une sobriété incroyable, un monument qui ressemble à un vaisseau, à un navire posé sur rien, sur une terre agricole où il y a quelques Indiens qui travaillent dans les champs aux alentours, un navire qui ressemble en même temps à une forteresse de Nouvelle-Castille, avec des merlons sur le sommet, un monument de pierre construit comme s'il avait été encore un peu aztèque, ou en tout cas fait par des mains indiennes, on le sent, avec une ferveur, avec une simplicité, une sobriété qui nous fait comprendre que tout à coup, au lieu d'une pyramide, on peut installer cette nef pure, cet autel sacré, cette vision de mendiants et de gens qui ont cette simplicité qui va bouleverser l'Indien, cet Indien qui va admettre immédiatement le christianisme. Alors, bien sûr qu'il y aura une intransigeance aussi à l'égard de toutes ces pratiques idolâtres. On va lutter pour améliorer la condition de ces peuples qui sont maintenant assujettis. On va mettre en œuvre un programme, je vais l'appeler programme d'éducation, parce que c'est vrai, il y a des jeunes qui sortent de l'aristocratie indienne, qui vont d'abord se heurter à des résistances de la part des Européens qui sont déterminés à conserver le monopole du savoir et du pouvoir. Et ces jeunes, cette noblesse, on va les installer dans un collège. Par exemple, prenez le cas du collège impérial de Santa Cruz à Tlatelolco. Tlatelolco, ça se trouve aujourd'hui au cœur de la capitale de Mexico. Et Tlatelolco, c'est le lieu de la chute de Cuauhtémoc en 1521. Et bien, c'est là qu'a été fondé en 1536 le premier collège. Il a été fondé par l'évêque, qui est aussi le premier d'ailleurs, de Mexico, Juan de Zumárraga. Et c'était destiné à cette élite. Eh bien, on va devoir fermer les portes de ce collège quelque temps après. Vous sentez maintenant cette différence entre ces premiers missionnaires et ceux qui sont déjà en place, qui ont déjà agrippé le sol américain et qui connaissent la valeur des choses? Alors, naturellement, la différence sera énorme par la suite, parce que après les ordres mendiants, on aura un clergé séculier qui va s'installer, qui va arriver vers la fin du XVIe siècle et qui va se mettre au service des intérêts, de ces intérêts bon, coloniaux, bien sûr. Et c'est ainsi qu'on voit s'effriter, on voit s'effondrer véritablement ce rêve des premiers apôtres du christianisme. Ce côté qui nous a paru magique, là, on a senti cette beauté d'âme, on a senti ce contact avec l'indigène, et on va créer finalement une église qui n'a plus rien de cette première église qu'on aurait pu appeler victorieusement presque une église indienne. Celle-ci n'a existé que quelques jours, que quelques mois, et on l'a senti grâce à ces premiers personnages. Il y a maintenant plus de 2000 couvents, 2000 églises en quelques mois, en quelques années, construites par 12, par 19 franciscains, par quelques augustins. Un miracle, mais oui, il a fallu un miracle, puisque les Indiens ont, à cette période-là, accepté de construire tout cela. La suite des événements ressemble plus au premier jour de la conquête. C'est la deuxième fois que je l'évoque, mais on y reviendra. Si j'ai reparlé du premier jour de la conquête, c'est ce choc qui a une violence qui va être durable et qui va en somme être pour l'Indien une catastrophe qui va bouleverser tous les domaines qu'il connaissait. Je pense à l'art, on pourrait parler de la culture, de la religion, je dirais même aussi de son intégrité physique, parce qu'elle va changer. Des anciennes traditions, vous les connaissez peut-être, parlaient d'époque cosmogonique chez les Indiens. Il y avait quatre soleils. Il y avait quatre soleils qui avaient déjà péri avec des cataclysmes effroyables. Et puis, il y a l'arrivée des conquistadors, il y a ce cinquième soleil qui est en train de s'éteindre de façon tragique, et on a l'impression qu'on vit véritablement une tragédie. Et cette oppression religieuse et culturelle, elle va anéantir la puissance créatrice, enfin cette formule créative qu'avaient tous les peuples amérindiens. Quand on étudie ces peuples-là, en tout cas les précolombiens, ceux qui étaient juste avant la colonie, eh bien on voit qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel qu'on a complètement ignoré à cette heure-là. Je ne parlerai pas des milliers de livres pictographiques qui vont être brûlés, de tout ce savoir de l'histoire des ancêtres qui va disparaître. Je ne parlerai pas de la fin de ces arts plastiques, parce qu'ils ont existé, de cette architecture sacrée, du travail. Ce travail, pensez à la jadéite, pensez aux plumes précieuses, à la mosaïque, tout va disparaître. Et la culture, l'art, les sciences, tout ce qui faisait vraiment la qualité de cette aristocratie, des prêtres, des artistes, tout cela va disparaître. disparaître dans cette tragédie. Et puis, il y a le démantèlement de tout ce qui était l'ancien ordre social et religieux. Il y aura les épidémies. Attention, je vais en parler parce que cet aspect-là est violent. Il y a aussi la distribution des terres communautaires. Il y avait des communautés, ils avaient l'habitude de travailler en communauté. Et tout cela va être déstructuré. Il n'y aura plus de société préhispanique. Et dès le débarquement des conquistadors, eh bien, il n'y aura plus que ruines. Et je dirais même qu'à l'arrivée des Espagnols, à la fin du XVIe siècle, cette population de la Nouvelle-Espagne, qui est très difficile à évaluer. Bon, je dirais qu'il y en a qui disent qu'il y avait 3 millions d'Indiens, on arrive même à 28 millions d'Indiens, c'est vous dire si les chiffres sont très différents. Et en l'occurrence, on voit qu'il y a une disparition absolument vertigineuse, une chute incroyable qui est souvent affirmée comme atteignant pratiquement 90%, 90% de disparition indienne. Ça paraît incroyable. Cette population, rien que pour le Mexique, va disparaître pratiquement au cours de ce premier siècle. Alors, quelles sont les raisons de cette catastrophe démographique? Réfléchissez quelques secondes et vous verrez qu'effectivement, il y a la variole, il y a la grippe, il y a la rougeole, des maladies qui vont toutes être introduites par les Blancs et contre lesquelles l'Indien, son organisme en tout cas, était sans défense. On ne pouvait rien faire contre ces fléaux. Alors il y a des répressions aussi, il y a la disette, il y a les travaux forcés dans les mines, il y a aussi ces Européens qui vont aggraver tout ce qui existait déjà comme défaut dans la société indienne. Et on a des témoignages fantastiques. Là, je repense à Motolinia, le pauvre, qui a brossé un tableau absolument saisissant de ce qu'il a appelé des plaies qui ravageaient la Nouvelle-Espagne et qui vont décimer cette population autochtone. Alors, la première, je vous ai dit, c'est la vérole. La vérole qui va être introduite en 1520 par un esclave noir. On l'appelait Panfilio de Narvaez, c'était le chef de l'expédition. Et il y avait un noir, justement, dans cette équipe, dans cette première expédition, qui va faire périr à peu près la moitié de la population. Ça, c'est ce que nous dit le pauvre, enfin le franciscain en question. Et il y a eu des morts au cours de la conquête du pays, tout particulièrement lors de la prise de Tenochtitlan. Il y a eu cette grande famine qui va succéder à la chute de la capitale aztèque. Là, je ne parle que de quelques cas, mais il y en a ainsi par centaines lors de la première décennie ou des premières décennies de la conquête. Il y a autre chose qui me paraît important, c'est l'esclavage, qui va faire des fléaux absolument terribles. Et c'est quelque chose d'incroyable, parce que les esclaves vont périr dans des travaux. Je citais les mines tout à l'heure. Des régions, des villages entiers vont se dépeupler de leurs habitants uniquement parce qu'ils vont devoir fuir. Ils n'ont pas envie de travailler comme cela, donc ils partent dans les montagnes. Et c'est là qu'on les retrouve encore aujourd'hui. Parce que la cruauté des Blancs, je prends un exemple qui est terrible. On va utiliser pour chasser, pourchasser ces villageois, ces Indiens, on va utiliser ces molosses, là, ces chiens énormes qu'on avait ramenés des Antilles et qui venaient d'Espagne, pour donner la chasse tout simplement aux esclaves fugitifs. Les populations vont être décimées, les Espagnols vont importer ensuite de la côte occidentale d'Afrique, ça vous le savez, des esclaves noirs pour travailler dans les mines. Ce sont en somme ceux qui vont remplacer les Indiens qui ont fui et qui ont disparu physiquement. Et parmi les conquérants, les encomenderos que je citais tout à l'heure, les fonctionnaires aussi, ces fonctionnaires royaux, je dirais qu'il y a eu quelques personnes qui vont faire preuve d'humanité et de compréhension envers les populations qui ont été maintenant complètement assujetties. La monarchie espagnole va promulguer en faveur de l'Indien, des Noirs aussi bien sûr, des lois qui sont quand même très novatrices. Là j'aimerais de nouveau donner un sens compensatoire à ce que je disais tout à l'heure. Parce que les nouvelles lois vont être promulguées assez tard, c'est en 1542-43. On va condamner l'encomienda et on va faire passer les Indiens sous le contrôle de la couronne à la mort de l'encomendero. C'est-à-dire que le premier système va tomber par les lois, va tomber à l'eau et on va mettre l'Indien directement sous le pouvoir de la couronne. Et bon, il y aura des réactions absolument incroyables et on va devoir les modifier une fois de plus. Et le père Las Casas qui avait refusé l'absolution à tous les encomenderos et qui va être contraint d'abandonner son diocèse des Chiapas. Et mon Dieu, si les Chiapas sont célèbres, San Cristobal de las Casas, tous ces Indiens du sud du Mexique, on en parle et on en a parlé. Eh bien, je dirais, lorsque l'encomienda va commencer à décliner, il y a de nouvelles formes de servitude qui vont ressurgir. L'esclavage, l'exploitation sera de nouveau instauré. Les Indiens vont être dépossédés de leurs meilleures terres. Et on voit alors naître une chose nouvelle, sont d'immenses territoires. On va les appeler des haciendas. Vous y êtes, on va passer petit à petit de l'encomendero à l'hacendero. Et le péonnage, qui est en fait, comment vous le dire simplement, c'est le travail obligatoire, tout simplement. Eh bien, il sera d'ailleurs très souvent non rémunéré, va permettre aux Européens de retrouver une nouvelle méthode. On va devoir travailler sur leur terre avec cette nouvelle méthode des peones. Et les premiers métis du Mexique vont naître de ces aventures, de ces viols aussi, de ces concubinages plus ou moins prolongés des premiers conquistadors avec des femmes indiennes. Il y en a qui vont épouser leurs concubines. Bon, là, c'est uniquement si elles descendent de la grande aristocratie indienne. Mais la plupart du temps, eh bien, elles se font hors mariage. Là, je parle bien sûr des naissances. Et plus tard, les juges de l'Inquisition, qui va s'installer aussi en Amérique, va surtout veiller à ce qu'on appelait en Espagne la pureté de sang. Et à partir de là, bien sûr, les Espagnols vont devoir défendre les mariages. On va même favoriser les concubinages, même les unions sexuelles avec les indiennes. Ça paraît curieux. On veut que ces interdictions soient respectées. Elles le sont d'ailleurs très rarement. Et les Européens possédaient, je dirais plus ou moins discrètement, de véritables harems à la première période de la conquête. Et maintenant que nous sommes installés dans l'hacienda, vous allez voir que les choses vont changer. C'est une nouvelle période qui s'ouvre, c'est le début du XVIIe siècle. Vous allez voir que le monde rural va se transformer. Le grand propriétaire a maintenant la terre en main. Mais quand je dis le grand propriétaire, vous prenez le quart de la Suisse, un canton complet, et vous dites « je suis propriétaire ». On a commencé par être découvreur. On a été ensuite le premier conquérant. Ensuite, le premier colon. Le colon, c'est celui qui va recevoir, parce qu'il était ancien soldat, parce qu'il était conquérant, va recevoir l'encomienda. On vous donne ces terres, mais avec les Indiens, vous les regroupez, vous en faites des villages, vous devez construire des églises, vous y mettez un missionnaire, et vous devez vous occuper de cette population. Vous pouvez utiliser ce réservoir comme main d'œuvre. Vous allez exploiter vos terres. Là, en 1540-43, une coupure. On annule l'encomienda simplement pour enlever le pouvoir à ces militaires, à ces anciens, à ces filous en fait, qui ont réussi à grignoter l'Amérique. On veut maintenant des gens qui aient plus d'allure, qui ressemblent plus à la couronne d'Espagne. S'installe alors, de façon tout aussi bizarre, l'hacienda. L'hacienda qui veut dire finance. L'hacienda avec le grand propriétaire de l'hacienda qui, au XVIIe siècle, va régner sur ses vassaux. C'est un véritable seigneur féodal. C'est un maître absolument redoutable. C'est un patriarche. Il est despotique. Et il va régler la vie sociale et même familiale de tous ceux qui vivent sur ses terres. Alors, par la prison, par du moyen de répression, il maintient véritablement tous ses peones dans un état d'ignorance, de dépendance. Il va même, j'irai plus tard, les gros possédants seront peut-être des créoles, peut-être des métis, mais le système reste le même. Celui qui est en bas est toujours l'Indien et restera toujours l'Indien. Et même le commerce va faire partie de cette classe de fonctionnaires royaux. Tout cela exploite véritablement. C'est vraiment comme si on pressait un citron. Les seuls qui sont véritablement exploités, c'est toujours cette masse indienne, cette masse paysanne. Il peut y avoir quelques confusions parce qu'il y a un métissage véritable, un métissage qui est biologique, il faut bien l'appeler comme cela, et il a été très rapide celui-ci. Vous avez compris pourquoi tout à l'heure, il y a eu cette formation aussi des castes. Les castas, c'est un terme péjoratif qui va désigner vraiment l'ensemble de tout ce qui est bigarré, de tout ce qui est métisse, de tous les sans-mêlés. Alors, ce terme péjoratif, ben là, au contraire, pour monter d'une caste à l'autre, on voit que c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile. Et vers le milieu du XVIIe, il y aura... Là, j'en prends un auteur. Eric Wolff a beaucoup étudié les paysans. C'est un Américain qui a travaillé pendant 10 dizaines d'années sur la cause indienne et paysanne. Eh bien, il disait que vers le milieu du XVIIe, il y avait à peu près 130 000 métis, mais qu'il y avait 1 270 000 Indiens et 120 000 Blancs. Vous voyez un peu le rapport ? 130 000 métis, 120 000 blancs, mais 1 270 000 indiens. Alors bien sûr, ces esclaves qu'on oublie encore, ce sont les Noirs. On peut les rajouter, qui ont été importés de la côte occidentale de l'Afrique. Ben, c'est le troisième élément essentiel dans ce processus, parce que c'est un processus, le métissage. Et leur nombre, non, il n'a jamais été très important, mais simplement qu'il se remarque. Hein. Quand vous allez sur la côte et que vous voyez les Noirs, on les remarque très vite. Et à la fin du siècle suivant, la population indienne de la Nouvelle-Espagne, donc du Mexique, c'était considérablement accru et on dit qu'il y avait à peu près 5 200 000 indigènes ou individus. Alors c'est énorme hein, comme augmentation et le nombre des métis comparativement a été beaucoup plus rapide puisque selon les castas, ils atteignaient alors le chiffre de 2 270 000. Je vous embête avec des chiffres mais c'est simplement pour vous montrer quels sont les problèmes qui se préparent maintenant. Là vous arrivez à cette dernière décennie du 18e siècle et il y a des événements absolument incroyables qui se passent dans le monde. Essayez de repenser en 1776, il y a tout à coup la 13 colonies d'Amérique du Nord qui vont se rebeller contre l'Angleterre. Il y a ce commandement incroyable de George Washington. Il y a l'indépendance qui tout à coup arrive. Et en 1789, ou 89 si vous préférez, il y a la Révolution française. Alors des œuvres d'auteurs français, il y a eu le siècle des Lumières, vont arriver petit à petit en Nouvelle-Espagne. Et ça va créer une sorte d'influence sur des gens qui, bizarrement, sont des créoles, c'est-à-dire des Espagnols qui sont nés en Amérique. Et la cette tension extrêmement profonde qui va régner dans tout le pays, elle va se manifester surtout, ça c'est une date qui pour moi me paraît très importante, 1767, il y a eu beaucoup de chiffres, mais 1767... C'est d'abord des tentatives de rébellion, d'insubordination qui ont été provoquées par l'expulsion des jésuites du Mexique. Il se cache beaucoup de choses derrière cette expulsion des jésuites, non seulement du Mexique, mais de toutes les terres hispaniques. Il n'y aura plus un jésuite en Amérique latine, il n'y en aura plus un seul en Espagne. Bien sûr qu'ils ont des idées un peu trop quelque chose. Hein. Vous voyez, vous sentez que c'est dans l'air, c'est l'avant-révolution mondiale, l'extrême misère qu'on a ressentie de ce peuple indien, ce déracinement aussi des castes, ces abus du régime espagnol, ce désir de vengeance de tous les créoles qui ont préparé petit à petit le terrain par des mouvements de révolte, ça allait conduire à l'indépendance. L'indépendance, qu'est-ce qu'il faut vous dire ? 1808, c'est Napoléon qui envahit l'Espagne et qui... l'Espagne va perdre tous ses contacts avec ses colonies d'Amérique. En 1810, il y a un curé, c'est un créole, il s'appelle Miguel Hidalgo, il va lancer le cri de l'indépendance et toutes les masses rurales du Mexique vont répondre à son appel, vont se jeter dans la lutte et vont crier « Vive la Vierge de Guadalupe, mort aux Espagnols !» Et malgré la répression, malgré l'exécution de ce père créole, de ce père Hidalgo, l'insurrection va se poursuivre dans d'autres régions sous la direction de, je ne sais pas, il y a José Morelos par exemple, et plus tard il y aura Vicente Guerrero, des noms qu'on connaît encore au Mexique. Et enfin, en 1821, c'est un général, c'est le général Iturbide qui va proclamer l'indépendance du Mexique. Vous y êtes ? Nous sommes le 24 août 1821. Nous sommes partis de Mexico, Tenochtitlan, un 13 août 1521, au moment où Cuauhtémoc perdait le pouvoir. Et vous voyez que cette histoire qui nous amène jusqu'à l'indépendance ne fait qu'il n'y a qu'un être, qu'une ethnie qui a été totalement oubliée dans l'histoire du Mexique, depuis la mort de Mexico Tenochtitlan, jusqu'à ce cri de l'indépendance fait par des Indiens et par des paysans, les seuls qui continueront à être ignorés, et nous le verrons lorsqu'on passera à l'époque nationale, ou je dirais même révolutionnaire ou contemporaine, eh bien, il n'y en a qu'un qui reste l'oublié de service, c'est l'Indien. L'Indien du Mexique qui n'a jamais eu ni la parole, ni le pouvoir depuis Tlatelolco.
Thank you. Yeah.